journée de campagne. Bonjour, nous ouvrons une deuxième journée dans le département du Rhône et la métropole du Grand Lyon, comme on le disait déjà hier. Un coup d'œil sur la communauté de communes Beaujolais, Pierre Doré, qui porte bien son nom, en particulier à Saint-Véran. 1100 habitants, mais des milliers de pieds de vigne. Ici se prépare l'événement de l'année sous le nom de Printemps Véranais. Le 19 mai, le village attend au bas mot 5000 personnes pour goûter gratuitement une quinzaine de spectacles qui mêlent art du cirque, musique, conte et théâtre. C'est un maillage d'associations culturelles locales qui permet d'offrir cette journée grand public au cœur des vignobles. Et Carole, qui nous a informé de la préparation de cette fête, nous transmet le pitch de l'événement, parce qu'on est branché ou pas. La rue est vers l'art et la ruée vers l'art. Si vous voulez des détails comprendre, allez sur le site printempsveranais.fr. Au nord de Lyon, Chazet d'Azergues, la société Exopath spécialisée en systèmes logiciels informatiques, met au point un procédé qui peut transformer l'apiculture, les ruches connectées. Le projet baptisé Beekeeper est le fruit du travail de notre premier invité, Fabien Dufournel. Et puis à Lyon, une autre société, on dit une start-up, récemment fondée pour inventer et fabriquer des jouets éducatifs et écologiques. Fabula Box, c'est le nom de cette jeune entreprise qui a été imaginée par Alexandra Morge-Rochette, seconde invitée de ses carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Fabien Dufournel, bonjour.
Bonjour.
Fabien, vous êtes fondateur du projet Beekeeper. Vous êtes créateur de ruches connectées, ça veut dire que maintenant il y a l'intrusion d'une puce au milieu des abeilles ?
Alors, on a créé une ruche connectée et en effet, ça veut dire que les abeilles cohabitent avec un système numérique qui va nous permettre justement d'être moins intrusifs.
Mmh. Ça veut dire, pour les apiculteurs professionnels, d'avoir à distance des données de quel genre ?
Alors aujourd'hui, on relève principalement l'hygrométrie, la température à l'intérieur de la ruche. On relève aussi les données à l'extérieur de la ruche, ce qui va être contextuel, et le poids.
Comment vous est venue l'idée ?
Alors, l'idée m'est venue parce que je suis de formation dans l'informatique. Je fabriquais, je commercialisais des objets connectés. Et j'ai la chance d'avoir dans ma famille depuis de nombreuses années des ruches à titre amateur. Et on se rend compte que les abeilles disparaissent petit à petit, qu'on ne sait pas forcément pourquoi. Et surtout, en face de ça, les apiculteurs sont toujours équipés comme on l'était au milieu du 19e siècle. Donc c'est vraiment là la genèse du projet où je me suis dit il faut qu'on s'arme mieux, qu'on s'outille mieux pour comprendre ce qui se passe et pour ensuite aider la recherche et trouver quels sont les problèmes de survie des abeilles.
Mmh. Et ce système n'a aucune incidence sur la vie de la ruche et la production des abeilles.
Alors le but même de ce système est de diminuer notamment l'incidence de l'être humain sur la colonie d'abeilles. Finalement le fait de savoir par exemple la température à l'intérieur de la ruche, ça nous permet d'avoir un monitoring qui nous évite de nous rendre sur place, d'ouvrir la ruche, de soulever tous les cadres, de faire rentrer le froid, de risquer de tuer la reine ou de manipuler les abeilles de manière incorrecte.
Et c'est une manière aussi d'ouvrir l'apiculteur à tout le monde, aux amateurs ?
Alors, c'est pas un service aujourd'hui qui se destine à l'apiculteur. On a monté un service autour de ces ruches connectées qui nous permet derrière de proposer aux entreprises, aux bailleurs sociaux, à toutes les personnes qui ont une structure, de pouvoir héberger une ruche, du coup, ou de pouvoir parrainer une ruche à distance, d'avoir le lien et la pédagogie qui vont autour, c'est-à-dire qu'autour des données qu'on collecte, on a monté une application. Cette application nous permet, à partir de là, d'expliquer ce qui se passe aux gens. On peut expliquer, du coup, qu'est-ce qui se passe l'hiver, qu'est-ce qui se passe l'été, apporter la pédagogie, sensibiliser les personnes. Donc, il y a un premier intérêt pour l'entreprise qui gagne un gain d'image, qui lui permet de valoriser son action éco-responsable, ou pour un bailleur social qui va permettre de créer un projet interne regroupant tous les participants autour d'un objet commun, la mise en place d'une ruche, avec derrière la sensibilisation, la prise d'information et la pédagogie qui vont permettre d'aboutir le projet et de développer en plus l'apiculture urbaine.
Ouais. Et alors, dernière chose à propos des particuliers, vous envisagez que les particuliers participent à ce parrainage d'abeilles ?
C'est ça, aujourd'hui on a un bon succès d'image, tout le monde veut aider les abeilles, tout le monde veut faire partie de l'aventure Beekeeper avec nous, et malheureusement on avait une offre qui se limitait aux entreprises ou qu'aux regroupements en tout cas de particuliers.
Oui.
Donc face à cette forte demande, on est en train de mettre en place une offre de ruchers dédiée Beekeeper qui permettra aux particuliers d'aider une ruche ou une colonie d'abeilles en particulier, Et bien sûr, hein, en contrepartie, ils pourront faire partie aussi du projet en récupérant des pots de miel ou en récupérant divers goodies qu'on pourra fabriquer à partir de ce que la colonie d'abeilles a produit. Et surtout, avec un niveau de parrain suffisant, permettre de financer une deuxième ruche, puis une troisième ruche, puis d'agrandir le rucher beekeeper de la sorte.
Et le monde professionnel de l'apiculture a bien reçu votre création ?
Aujourd'hui, oui. Donc, je me base, n'étant pas moi-même apiculteur, sur un réseau d'apiculteurs professionnels hein, qui m'épaulent. C'est avant tout un métier. C'est assez bien reçu. Ça leur permet de diversifier leurs activités. Ça leur permet aujourd'hui de rebondir, notamment dans un circuit où les conditions météo ou climatiques changent et leurs garanties de revenus sont actuellement quand même très dépendantes. Ça leur permet d'apporter une stabilité, de repenser leur métier différemment. Et c'est plutôt bien vécu.
Très bien, belle invention. Et puis je tiens à signaler, parce qu'on va dire, ah oui, mais c'est un spécialiste du numérique et du service numérique, un entrepreneur qui s'insinue dans le monde de l'apiculture, dans la famille Dufournel. Il y a une passion familiale qui est justement l'apiculture. Donc voilà.
Pour exactement, ça remonte à mon arrière-grand-père, pour être précis.
Ouais. Ça s'appelle Beekeeper, beetradeunionkeeper.com, Beekeeper pour la page Facebook aussi, à suivre au bénéfice de la sauvegarde des abeilles de l'apiculture et de la production. Merci Fabien.
Merci à vous, bonne journée.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Un mot sur l'entreprise créée par Célia. Merci à elle. Elle s'appelle Ressource, Re.source. Elle consiste à valoriser les matériaux des professionnels du bâtiment, qu'il s'agisse de surplus ou d'erreurs de commande, de façon à éviter un gâchis. 50 millions de tonnes de déchets par an produits par le bâtiment, vous imaginez. Tout le monde est gagnant. La planète, hein, en évitant le gaspillage et le remplissage d'ébène. Pour le vendeur qui se décharge de matériaux inutilisés, l'acheteur pour les économies réalisées. Sur le site de l'entreprise, vous allez avoir apparaître les stocks qui dorment chez les professionnels du département du Rhône, stock à prix cassé. Vous y trouvez des fenêtres, des portes du bardage, des planchers, autres revêtements de sol, il y en a pour tous les goûts. Le site c'est rs.ressources avec un seul S, ressources, parce qu'on va chercher à la source.fr. Alexandra Morge-Rochette, bonjour.
Bonjour.
Ça y est, vous êtes chef d'entreprise ?
Oui, tout à fait.
Vous l'aviez imaginé dans votre vie ?
Alors vraiment pas, c'est marrant les hasards de la vie. Non, j'étais très bien en tant que salarié et puis la vie en a voulu autrement, les idées et mes valeurs m'ont amené à l'être.
Salarié dans une agence de communication ?
Oui, pendant une dizaine d'années.
Et vous avez créé Fabula Box avec plusieurs objectifs, mais ce sont, on va dire, des tapis de jeu, des décors de jeu pour enfants.
Oui, en effet, l'objectif d'y jouer est de servir de décor qui va être enfin compatible avec tous les autres jouets des enfants. Mais derrière ce décor à assembler, il se cache plein d'activités qui vont accompagner à la fois le développement moteur et cognitif des enfants de 4 à 10 ans.
Qui a dessiné ces décors ?
Alors, les premières maquettes sont venues de mon cerveau et de plein d'essais qu'on a fait avec, avec des enfants de différents âges. Et puis, depuis maintenant un an et demi, moi, je travaille avec Carole Dubu, qui est mon associée et qui, elle, invente tous ces univers.
Et vous aviez un objectif, Alexandra, c'était de travailler le plus localement possible.
Oui, tout à fait. C'est d'abord une prise de conscience en tant que parent qui m'a amenée à créer Fabula Box. C'est de me rendre compte que nous n'avions pas conscience souvent de l'impact environnemental des jouets que nous achetions, à la fois de par leur origine géographique, mais également par rapport aux matériaux qu'ils contiennent et qui sont parfois pas du tout adaptés en termes de santé pour nos enfants. Mmh. Et donc oui, depuis le début, on a eu cette démarche de travailler non seulement en France, mais le plus près de chez nous possible, pour être sûr de limiter au maximum l'impact de tous nos transports et puis de faire les choses le mieux possible, parce que quand on est sur place, c'est beaucoup plus facile à surveiller.
Ouais. Quels matériaux vous utilisez ?
Nos Fabula Box, elles sont composées avec deux matériaux essentiellement. Un carton qui est extrêmement résistant, qui permet de survivre à la vie d'un enfant, et qui nous permet d'imprimer avec une très belle qualité nos façades, donc toutes inspirées de l'architecture, et qui sont remplies de plein de détails graphiques. Et puis pour soutenir tous ces éléments ensemble, on a du bioplastique biodégradable.
Donc ce sont des jouets durables, écologiques, made in France. Avec un marché que vous avez gagné, de quelle façon ? Parce qu'il y a une concurrence, j'imagine. Et puis en plus de ça, les enfants, même très jeunes maintenant, sont plus vers le numérique et le virtuel que vers le réel.
Alors heureusement, pas encore à 100%. Oui. Il y a plein de choses que le jouet virtuel ne permet pas. et en particulier, toutes les études l'ont montré, c'est que c'est en manipulant avec leurs mains que les enfants mémorisent et ancrent les apprentissages. Donc aujourd'hui, heureusement, le virtuel n'a pas pris tout le marché et je pense que de plus en plus de familles en ont conscience. Donc aujourd'hui, on est sur un marché qui est en effet largement dominé par des produits, on va dire, en plastique jetable, essentiellement importés d'Asie. Mais nous, on l'a remarqué à la fois chez les boutiques de jouets, librairies indépendantes, mais également de plus en plus chez les grands du jouet. Il y a une vraie démarche qui est en train de se mettre en place pour aller chercher du jouet de qualité, c'est-à-dire qui soit vraiment ludique, qui plaise vraiment aux enfants, mais qui leur apporte autre chose. Nous, c'est ce qu'on a fait, tous nos jouets ont une vraie vertu éducative, mais c'est d'abord un jouet, ça c'est le plus important, mais il va vraiment aider les enfants dans leur développement.
Alors, le volet local est assumé, le volet environnemental est assumé, il y a un volet solidarité aussi.
Oui, alors quitte à faire les choses le plus honnêtement possible, il nous semblait important que notre produit, il accompagne également les publics les plus fragiles. Aujourd'hui, on le fait de deux manières. La première, c'est qu'on a fait le choix de travailler tous nos conditionnements avec un atelier d'insertion qui travaille essentiellement avec des femmes en grande difficulté. Et puis, on a fait le choix également, puisqu'on est une entreprise sociale et solidaire, donc ESS, de préciser dans le statut que nous allons reverser une partie de nos bénéfices à des associations de protection de l'enfance.
C'est-à-dire, vous avez le label ESUS.
Oui, tout à fait. On est allé même plus loin sur le fait de limiter les écarts salariaux, dans la même logique.
Bravo. Et puis alors, j'annonce quand même une nouveauté, là, très prochaine. Sakura Dori.
On vient juste de la sortir. Voilà, ouais. C'est tout frais. On vient de sortir notre 9e référence, qui est un hommage à la fois au printemps et au Japon. Toujours sur le même principe, une base d'architecture, par-dessus laquelle on rajoute plein d'éléments fantastique ou poétique pour éveiller la curiosité des enfants et ça nous permet également d'avoir plein de jeux et d'énigmes pour que les enfants jusqu'à 10 ans s'amusent très facilement.
Et vous avez testé la Fabula Box sur vos enfants ?
Oui, alors j'avoue, je suis moi-même maman, je suis également marraine et voilà, j'ai plein de neveux et nièces et ils ont été un peu mes cobayes, cobayes tout à fait volontaires. Maintenant, ça fait à peu près 9 mois qu'on a nos produits en vente aujourd'hui. Et on en a vendu 3000. Et on a total, je pense, vu à peu près 4000 enfants qui ont testé nos produits. C'est ça qui est passionnant, c'est de voir la diversité des enfants qui y jouent, y compris des enfants avec des handicaps. Mmh. Et qui tous arrivent à en tirer un bénéfice personnel et pour leur imaginaire.
Fabulabox.com pour l'adresse, page Facebook. Fabulabox.toys pour cette start-up lyonnaise. Moi, je préfère dire une entreprise hautement sociale et solidaire, comme vous l'avez bien spécifié. Et on en est ravis. Merci, Alexandra.
Merci à vous. Très bonne journée.
La semaine prochaine, nous serons en Savoie, avant la Haute-Savoie, le Calvados, ensuite la Seine-Maritime, et fin mai, les Pyrénées-Atlantiques, je le rappelle à chaque fois, pour vos courriers. Merci grandement.